Bonjour et bon vendredi, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens, 16 février, déjà la mi-février, même plus, on s'en va vers le printemps, ça commence à se sentir, en tout cas aujourd'hui, mais en fin de semaine, paraît-il que la neige et le froid seront de retour. On va profiter du temps doux. Quand il passe, on n'a pas le choix de toute façon. Hélène Denis qui vous accompagne avec plaisir. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous m'avez appelé mademoiselle, alors moi je vous appelle, c'est demoiseau ou damoiseau?
Nibla, là, vous m'avez surpris en fait ce matin, je n'étais pas prêt à cela.
Alors comment allez-vous jeune homme?
Je vais très bien,
oui,
merci.
Mais oui, tant mieux. Êtes-vous sorti hier soir?
Non.
Non, parce que je sais que vous sortez pas mal quand
oui,
même.
Oui, mais
vous
non.
Vous courez les activités culturelles,
les restos. Faut se reposer pour sortir tard.
Oui, alors vous allez peut-être vous reprendre en fin de semaine.
Peut-être, ouais. Peut-être, je verrai.
Il n'en dira pas plus. Alors, on vous écoute dans les éphémérides.
Alors, aujourd'hui, peut-être serait-il mieux de commencer par une citation.
Tiens, ah
que
oui?
J'ai tirée du livre de Sébastien Chamfort, Maximes et pensées. Les passions font vivre l'homme et la sagesse le fait seulement durer.
Ah, c'est bien ça.
Eh oui, c'est tout. 2010.
Alors, si on veut vivre longtemps...
Il faut être sage.
Et si on veut mourir heureux, en tout cas, entre guillemets, on demeure passionné.
Les passions nous font vivre, ouais, mais sagesse nous fait durer.
C'est bien avoir l'équilibre.
Oui, hein? Tout à fait.
Ouais, c'est toujours ça, de toute façon, dans tout. Cherchons l'équilibre.
Damoiseau. Je vais faire une recherche.
Oui, ben moi aussi. OK, je vous écoute.
2007, la chambre... Attends, je vais recommencer. 2010... De la Colombie-Britannique, Maëlle Ricker obtient la médaille d'or à l'épreuve de snowboard cross des Jeux olympiques de Vancouver. Maintenant, 2007, la Chambre des représentants adopte une résolution symbolique rejetant la décision de George W. Bush d'envoyer 21 500 soldats supplémentaires en Irak. 2005, entrée en vigueur du protocole de Kyoto sur le changement climatique, signé par 140 pays et imposant d'ici 2012 une réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 2005, la Ligue nationale de hockey annule la saison 2004-2005. 1970, Moscou annonce son intention d'apporter toute l'aide dont ils auront besoin aux pays arabes dans leur conflit avec Israël. 1968, en Alabama, inauguration du premier service 911 d'urgence téléphonique. En 1949, les communes adoptent le Newfoundland Union Act, prévoyant l'entrée de Terre-Neuve dans le Canada. 1946, Ottawa annonce l'arrestation de 20 suspects d'espionnage après les révélations d'Igor Gudzenko. Commis au chiffre à l'ambassade soviétique, 11 personnes seront condamnées. 1937, la société américaine DuPont dépose un brevet pour le nylon. Et 1899, à l'Élysée, lors d'un rendez-vous galant avec Marguerite Steinheil, le président de la République, Félix Faure, meurt subitement. Et pour ce qui est des naissances, le cinéaste Robert Flaherty, auteur de Nanook of the North, est né en 1884, un 16 février. Et l'universitaire Georges-Henri Lévesque à Roberval est né en 1903, nous a quittés en 2000. Et pour ce qui est des décès, outre celui de Félix Faure, nous avons l'ex-receveur étoile des Expos de Montréal, Gary Carter.
Et mort en trop jeune.
C'est vrai ou...
D'un cancer du cerveau.
C'est vrai?
Ouais, affreux.
En 2004, André Davelui, bien connu sous le nom de Monsieur Bricole pour ses chroniques de bricolage dans les médias québécois, et le violoneux québécois Jean Carignan nous a quittés un 16 février 1988.
Extraordinaire violoniste, mais on l'appelait aussi, on le qualifiait de violoneux, c'est ça?
Oui.
Oui, oui. Puis il faisait soigner la compagnie. Alors, mon cher Mathieu, vous êtes un damoiseau.
Ah bon, voilà.
Jeune gentilhomme qui n'était pas encore chevalier. Hein? Chaque chose en son temps.
Ben oui, voilà. Peut-être que la semaine prochaine, je le saurai.
Oh ben là, la semaine prochaine, dans 5 ans. Merci. À la une de la presse en Floride, « Nous ne voulons plus d'armes à feu », une citation, alors que les élèves de l'école Marjorie Stoneman Douglas pleuraient hier leurs 17 camarades et enseignants tombés sous les balles. Les États-Unis se demandaient comment le suspect, un jeune homme fasciné par les armes qui multipliait les messages violents sur les réseaux sociaux, a pu échapper à la vigilance de la police. Exclusif à la presse, entente avec les médecins spécialistes, des économies de 3,3 milliards sur 8 ans, estime Québec. Centre Père Marquette, larmes et incompréhension, un élève de 14 ans retrouvé gisant au fond de la piscine. Pose chic, habilleur de champion, rencontre avec Mathieu Caron, le designer derrière les costumes des médaillés d'or canadiens Tessa Virtue et Scott Maurer. Massacre en Floride, Parkland croyait avoir trouvé le secret de la sérénité et de la sécurité. Une ville faite de plusieurs ensembles résidentiels fermés au milieu d'une végétation luxuriante avec barrières et agents de sécurité à l'entrée. La municipalité avait d'ailleurs été couronnée collectivité la plus sécuritaire de Floride l'an dernier. Mais en ce lendemain du 14 février, les 3000 élèves de l'école secondaire locale ont dû se rendre à l'évidence. Comme tout autre élève américain, ils sont vulnérables à la folie armée d'un semi-automatique. « J'ai perdu 3 amis », a réussi à dire d'une voix faible Austin Lazare, 17 ans, dont c'est la dernière année d'études secondaires. Toute la journée, des centaines d'élèves de l'école Marjorie Stoneman Douglas se sont réunis dans un immense parc local afin d'affronter collectivement l'horrible réalité. Comme ils l'ont eux-mêmes vu des dizaines de fois à la télévision dans des circonstances semblables, filles et garçons se consolaient en ouvrant grand leurs bras, les yeux humides. Des crises de larmes éclataient à gauche et à droite pendant que des travailleurs sociaux quadrillaient la foule. Sur une scène extérieure, on avait déployé 17 anges lumineux, grands comme des enfants qui semblaient avoir été gardés en réserve pour ce moment. Le crépuscule venu, élus, leaders religieux et policiers se sont relayés pour mener une veillée à la chandelle. Sur la pelouse, de petites croix de bois à la verticale donnaient au parc l'air d'un cimetière bondé. 17 ballons blancs ont été lâchés. Devenue fréquente aux États-Unis, la cérémonie post-tuerie a ses codes auxquels il est difficile de déroger. Un accroc tout de même, des jeunes dans le public ont commencé à scander « Nous ne voulons plus d'armes à feu ». Au milieu des discours plus consensuels tenus sur la scène. Le slogan a survécu quelques dizaines de secondes, repris par une minorité du public, avant de s'éteindre. Le mystère demeure entier au lendemain de la découverte d'un élève de 14 ans gisant au fond de la piscine du centre Père Marquette dans le quartier La Petite Patrie. Au moment d'écrire ces lignes, l'adolescent reposait toujours dans un état critique à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est inadmissible. Le garçon d'Odile Rampy fréquente l'école Père Marquette, tout comme le jeune garçon retrouvé dans la piscine du centre sportif situé juste en face. Comment ça se peut? Interroge la maman. Elle n'est pas la seule à essayer de comprendre ce qui a bien pu se produire hier en matinée. L'adolescent de deuxième secondaire, qui était à la piscine avec sa classe pour le cours d'éducation physique, a été retrouvé au fond de l'eau par les élèves du cours suivant. L'appel au 911 a été fait à 9h45. Le jeune garçon aurait passé plusieurs minutes sous l'eau. Les paramédics sont arrivés sur place 5 minutes plus tard. C'est allé très vite. Il y a eu un retour du pouls du garçon pendant le transport vers l'hôpital, a indiqué Marcel Ouimet, d'Urgence Santé. En après-midi, hier, la Commission scolaire de Montréal n'avait toujours pas reçu de mise à jour de l'état de santé de l'adolescent. Les parents se trouvaient au chevet de leur fils, a néanmoins affirmé la CSDM. En soirée, il a été impossible de joindre un porte-parole de la Commission scolaire. Aucun acte criminel n'aurait été commis, a fait savoir de son côté le service de police de la Ville de Montréal, qui n'avait pas non plus de détails concernant l'état du jeune garçon. Le groupe d'élèves de l'école Père Marquette était surveillé par son enseignant d'éducation physique et par une sauveteuse employée de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie qui administre la piscine. La sauveteuse en poste, une jeune fille de 23 ans, a aussi été conduite à l'hôpital pour traiter un choc nerveux. Est-ce que le surveillant sauveteur a été dérangé? Est-ce que l'enfant a eu un malaise? Est-ce que la luminosité peut être en cause? C'est vraiment l'enquête qu'on aura par la suite qui permettra de bien comprendre, a dit Reynald Hawkins, directeur de la Société Sauvetage. Les médecins spécialistes consentent à prendre à même leur masse salariale plus de 100 millions par année de frais, jusqu'ici épongés par le budget général de la santé, a appris la presse. Québec fera valoir aujourd'hui que son entente lui coûtera au total 3,3 milliards de moins sur 8 ans que l'accord convenu en 2014. Les économies atteindront autour de 400 millions en moyenne par année pour la période 2015-2023, estime le gouvernement. Certes, l'enveloppe de rémunération des 10 000 spécialistes augmentera de 5 milliards à l'heure actuelle à 5,4 milliards en 2022-2023, mais elle devait atteindre cette année-là près de 5,9 milliards si l'accord de 2014 avait été appliqué tel quel. Ces chiffres mettent en lumière les engagements coûteux pris par le gouvernement dans le passé, des acquis que les spécialistes ont accepté de remettre en question. Dans un bulletin spécial envoyé à ses membres hier et obtenu par la presse, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, FMSQ, Diane Francoeur, déplore que la dernière semaine a été difficile pour l'image du corps médical. Malheureusement, depuis l'annonce publique de notre entente de principe, il n'y en a que pour les sommes d'argent que la FMSQ aurait obtenues pour ses membres. Pourtant, cette entente de principe est au bénéfice de tous, y compris les patients et la population. Les frais accessoires, longtemps source de friction entre le gouvernement et les spécialistes, de même que les coûts liés à l'échographie, seront financés à même l'enveloppe de rémunération des 10 000 spécialistes. Ce matin, l'ex-secrétaire général du gouvernement et pilote de ces négociations, Roberto Iglesias, la secrétaire associée du Trésor, Édith Lapointe, et le sous-ministre aux Finances, Luc Montpetit, lèveront le voile sur l'entente qui vient d'être entérinée par l'exécutif de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Un édifice de 5 étages en pleine construction s'est effondré hier à Bangalore, haut lieu de l'industrie des technologies de l'information en Inde. L'effondrement a entraîné la mort d'au moins 3 employés. De nombreux autres sont prisonniers des décombres. La construction de l'édifice a débuté il y a 6 ans, mais a été interrompue à mi-chemin. Les travaux avaient repris récemment. Les effondrements d'édifices sont fréquents en Inde en raison des règlements laxistes qui encadrent les activités de l'industrie de la construction. Le développement économique rapide et la forte demande pour l'immobilier incitent des entrepreneurs à utiliser des matériaux bon marché et à ajouter des étages aux édifices sans autorisation.
Dans les
Demain peut-être d'Émilie Prou. Pardon. Pyeongchang 2018, une médaille historique. Alors, l'athlète, les bras ouverts, le regard vers le ciel. Vainqueur aux 10 000 mètres, Ted John Blumen est devenu le premier champion individuel canadien en patinage de vitesse chez les hommes depuis Gaétan Boucher.
Institut en santé mentale de Québec, des psychiatres dénoncent la réduction de services. Hydrocarbures, des puits introuvables sont jugés conformes. Une poignée seulement des 200 puits dont Québec a hérité ont été inspectés avant d'être classés. Bibliothèque, l'histoire de Livres dans la rue prend fin. Montréal abolit le programme qui porte livres et compteurs vers les jeunes défavorisés. Le cannabis ne sera pas légalisé avant la fin de l'été, les sénateurs ayant arrêté un échéancier pour l'étude et l'adoption du projet de loi. Yannick Nézet-Séguin au Met Opera dès l'automne. Éducation, mutation d'un échec en réussite. Et la chronique de José Blanchette, déprimée en souriant. L'absence de médecins les soirs et fins de semaine à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, l'IUSMQ, est inacceptable et risquée, dénoncent des dizaines de psychiatres et collègues d'autres disciplines dans une lettre ouverte au Devoir. Alors que le fléau des maladies mentales est de plus en plus pris au sérieux dans la population avec les sorties publiques d'Alexandre Taillefer ou de Samuel Archibald, des décisions administratives ne vont pas dans la bonne direction, écrivent les signataires de la lettre. Le Devoir révélait mardi qu'à compter de la fin mars, il n'y aurait plus de médecins le soir, après 16 heures, la nuit et la fin de semaine, à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Un médecin sera de garde, mais sur appel. Mercredi, le sujet avait rebondi à l'Assemblée nationale quand le député caquiste François Paradis a demandé au ministre de la Santé Gaétan Barrette de s'engager à ce que le service soit maintenu. M. Barrette a alors reconnu qu'il s'agissait d'un dossier de très grande importance et que des discussions étaient en cours avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec dans ce dossier. Il y avait une tradition dans cette institution selon laquelle des médecins restaient à l'hôpital, une tradition qui était exceptionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui se voit ailleurs dans le réseau, avait dit M. Barrette. Vérification faite, d'autres hôpitaux spécialisés en santé mentale offrent le service. C'est le cas de l'Institut Douglas et de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui offrent tous deux un service sur place 24 heures sur 24. Des notes formidables, notes formidables écrites en guillemets, même pour les élèves qui échouent. Avant de partir en congé de maladie en novembre dernier, Christelle Charpin avait entré toutes les notes de ses élèves dans le système informatique. L'enseignante a subi un choc en constatant à son retour en classe qu'une série de notes figurant au bulletin de la première étape avait été modifiée à son insu. Plus préoccupant encore, tous ses élèves obtenaient désormais la note de passage, même les 4 enfants qui avaient échoué en mathématiques et les 5 qui avaient échoué en lecture. Selon cette enseignante de 25 ans d'expérience, la direction de l'école a fait reprendre les examens de mathématiques et de lecture durant son congé de maladie, car près d'une demi-douzaine d'enfants avaient échoué. La direction craint les parents qui chialent quand leurs enfants n'ont pas la note de passage, dit-elle sans détour. L'Alliance des professeurs et des professeurs de Montréal, donc professeurs re et professeurs de Montréal, a déposé un grief pour contester la modification des notes à l'insu de l'enseignante. Le syndicat soutient que la direction de l'école a contrevenu à la loi sur l'instruction publique et au contrat de travail de l'enseignante en gonflant l'évaluation des élèves. Au cabinet du ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, on souligne que l'évaluation est une responsabilité partagée. André Fortin suggère aux policiers de revoir leurs pratiques. Aux policiers qui déplorent l'inapplicabilité des dispositions du Code de la sécurité routière sur l'emportiérage et le corridor de dépassement des cyclistes, Le ministre de Transport, des Transports a répliqué jeudi qu'ils n'ont qu'à être présents dans des zones où les gens se stationnent en parallèle de façon plus régulière. Les policiers font leur choix à savoir ce qui est plus important pour eux et ils ont le plus et où ils ont le plus d'impact, a déclaré André Fortin à l'Assemblée nationale. Le Devoir a révélé jeudi que les policiers peinent à appliquer les plus récentes dispositions du Code de la sécurité routière qui concernent l'emportiérage et l'obligation de respecter un corridor d'un minimum d'un mètre lors du dépassement d'un cycliste. Des analyses effectuées sur une vingtaine de diplomates américains affirmant avoir été victimes de mystérieuses attaques acoustiques à Cuba ont relevé des lésions cérébrales sans traumatisme crânien préalable, ont indiqué jeudi des scientifiques américains de la Perelman School of Medicine de l'Université de Pennsylvanie dans une publication du Journal of the American Medical Association. Ils ont examiné 21 employés du gouvernement américain qui se sont plaints de symptômes similaires à ceux d'une commotion cérébrale après avoir été stationnés à La Havane en 2016 et en 2017. Et combien de sans-abri à Paris? Quelques 2000 personnes, dont 1700 bénévoles, participaient jeudi soir à Paris à la première nuit de la solidarité, organisée par la mairie pour compter les sans-abri. Ce genre d'opération existe déjà à New York, à Bruxelles ou à Athènes. On se retrouve après la pause avec la suite de l'émission.
Thank you.
Le groupe s'appelle Hôtel le Morphée et la chanson était Garde-vous.
À la une de la presse, l'or est un record. Le Canadien d'origine néerlandaise Ted Jan Bloemen a remporté la médaille d'or à l'épreuve du 10 000 mètres en patinage de vitesse longue piste, établissant du même coup un record olympique, donc la même une pour Le Devoir et le Journal de Montréal, en fait la même photo, ou presque, on voit l'athlète en liesse. De la joie profonde, on passe à la tristesse profonde. Le tueur de la Floride, une bombe à retardement. Pas avant où la légalisation du cannabis officiellement retardée. Membre d'un groupuscule paramilitaire, suprémaciste blanc, souffrant de problèmes psychiatriques, fanatique des armes et ayant vécu une enfance difficile, Nicholas Cruz, qui a abattu 17 membres de son ancienne école mercredi en Floride, était une véritable bombe à retardement. Le FBI a reconnu hier avoir été alerté en septembre à propos d'un commentaire laissé sur YouTube par un utilisateur du nom de Nicholas Cruz. « Je vais devenir tireur professionnel dans les écoles », était-il écrit. Des vérifications ont été faites, mais elles n'ont pas permis d'identifier son auteur, a expliqué l'agent fédéral Rob Lasky, ou Lasky, hier. Nicholas Cruz, 19 ans, a été décrit par ses voisins comme une personne troublée, qui avait de la difficulté à contrôler son tempérament. Il avait d'ailleurs été expulsé de son école à cause de son comportement et il lui était interdit de s'y trouver. Cruz a été suivi dans un établissement de soins psychiatriques, mais il avait interrompu son traitement depuis un an, a indiqué Beam Fur, maire du comté de Broward. Orphelin, il a été adopté à sa naissance avec son frère. Son père adoptif est décédé en 2004. Sa mère adoptive, Linda Cruz, a succombé à une pneumonie à la fin 2017. Vêtu d'une combinaison orange de prisonnier, Nicholas Cruz a comparu hier à Fort Lauderdale, tête baissée. On a ordonné son maintien en détention sans possibilité de libération sous caution. Il fait face à 17 chefs d'accusation de meurtre prémédité. Selon un compte-rendu judiciaire publié hier, il a reconnu être l'auteur de l'attaque à l'école Marjorie Stoneman Douglas de Parkland en Floride. On y apprend aussi qu'après son massacre, Cruz est allé s'acheter à boire dans un restaurant Subway, puis s'est rendu au McDonald's. Il a été intercepté plus tard alors qu'il marchait dans un secteur résidentiel. Et le Journal de Montréal publie la photo des 17 victimes, 7 élèves de 14 ans, 2 âgés de 15 ans, 1 de 16 ans, 3 de 17 ans, 1 de 18 ans, 8 femmes, 9 hommes morts. Et il y a un prof de 35 ans, professeur de 35 ans, l'entraîneur de football de 37 ans et le directeur des sports de 49 ans, aussi des victimes. Au lendemain de la tuerie qui a coûté la vie à ces 17 personnes, des milliers d'Américains se sont réunis pour une soirée à la chandelle dans un parc afin de commémorer la mémoire des personnes décédées. Nous souffrons beaucoup. Aucun parent ne devrait enterrer son enfant, a dit Scott Israel, shérif du comté de Broward. Deux frères jumeaux ont été arrêtés hier à New York après que la police eut trouvé quelques 15 kilos de substances explosives dans leur appartement. Les enquêteurs se sont intéressés à l'un des frères, Christian Taureau, un enseignant de 27 ans, après que l'école eut été visée par une alerte à la bombe en décembre. Fin janvier, l'enseignant a démissionné et son frère jumeau, Tyler Taureau, a rapporté à l'établissement l'ordinateur portable qui appartenait à l'école, dans lequel ont été retrouvées des instructions sur la fabrication d'explosifs. Élève handicapé victime de mauvais traitements, point d'interrogation, une enquête criminelle a été ouverte par la Sûreté du Québec. Deux employés d'une école spécialisée de Lanaudière font l'objet d'une enquête criminelle et ont été suspendus pour leurs agissements envers des élèves atteints de déficiences intellectuelles. Selon nos informations, une enseignante et une éducatrice spécialisée de l'école de l'espace jeunesse située à Saint-Charles-Borromée, près de Joliette, sont visées par l'enquête de la Sûreté du Québec. Une contravention pour une plaque enneigée. La voiture du Montréalais était garée devant chez lui un jour de tempête. Un Montréalais déplore le zèle d'un employé de la ville qui a rédigé un contrat d'infraction de 63 $ parce que la plaque d'immatriculation de son véhicule garé devant chez lui était peu visible un jour de neige. « Ça n'a pas de bon sens », s'insurge Pierre Malot. À Montréal, il y a plein de voitures stationnées qui sont couvertes de neige et dont on ne voit pas la plaque. Le résident du quartier Villeray a reçu par la poste mercredi dernier le constat d'infraction daté du 22 janvier. Aujourd'hui, Pierre Malot ne sait pas encore s'il prendra le temps de faire les démarches pour contester cette contravention. Il pense tout de même écrire à son conseiller d'arrondissement pour obtenir des explications. Recours collectif possible pour les retards des trains de banlieue. Un recours collectif pour réclamer un dédommagement des usagers du train de banlieue pour les retards et annulations subis depuis le début de l'année est plausible, estime un organisme de défense des droits et des usagers du transport en commun. C'est une situation qui pourrait survenir, c'est plausible. Il suffit qu'un citoyen décide de le faire, a déclaré le président de Trajectoire Québec, François Pépin. Le directeur du même organisme, Philippe Cousineau-Morin, demande au réseau de transport métropolitain de mettre en place une politique de compensation permettant aux usagers d'être dédommagés lorsque des retards de services majeurs affectent le réseau. Ce ne serait pas à chaque retard, mais si on avait 3 jours de retard en ligne, la compensation s'appliquerait, a-t-il détaillé, soulignant qu'une telle mesure, qui n'est actuellement pas dans les plans du RTM, Réseau de transport métropolitain, réduirait les risques d'un éventuel recours collectif. Le gouvernement du Québec change son fusil d'épaule après avoir affirmé que c'était impossible. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a annoncé hier qu'un parent pourra bientôt accompagner son enfant à bord de l'avion hôpital du gouvernement. Des leaders autochtones, des parents et des médecins avaient récemment interpellé le ministre Gaétan Barrette. Il dénonçait notamment qu'un jeune Inuit ne parlant ni français ni anglais se voyait évacué sans la possibilité d'être accompagné d'un parent. « Nous avons été très touchés par les histoires des parents qui se sont vus refuser l'accès à l'avion. Je me souviens d'avoir répondu que c'était la réglementation. Or, j'ai peut-être mal compris ou peut-être que l'information était imprécise, mais il n'y a pas de réglementation formelle de Transport Canada à ce sujet », a reconnu Gaétan Barrette. Dentiste gratuit pour les plus démunis. Une clinique dentaire offre des services gratuits aux plus démunis de Montréal qui peuvent ainsi cesser de souffrir à cause de frais dentaires trop élevés. Les patients qui fréquentent la clinique Jim Lund de l'Université McGill ressentent habituellement beaucoup de douleurs. Certains ont attendu trop longtemps pour consulter, si bien que leurs problèmes dentaires affectent toute leur santé. Souvent, les patients qui n'ont pas accès aux soins dentaires peuvent développer des problèmes de cœur, de poumons, de gencives, ou une mauvaise estime d'eux, a expliqué le docteur Paul Sweet, dentiste à la clinique Jim Lund. La clinique offre uniquement des soins de base se rapportant aux examens dentaires, au nettoyage et au plombage. Or, certains patients auraient besoin de subir plus d'interventions comme des traitements de canal ou l'installation de couronnes qui ne sont pas couverts par l'établissement. Plus d'un Québécois sur quatre est privé de soins bucco-dentaires en raison de leurs coûts élevés, dévoilait la semaine dernière l'Institut de recherche et d'information socio-économique.
Amélie et sa chanson Courage.
Les journaux régionaux, elle veut amener son chien à l'école. C'est dans le droit Martin Brunette qui signe l'article. Une adolescente souffrant d'un trouble d'anxiété généralisée souhaite avoir le droit d'être accompagnée de son chien à l'école. Cassandra Boyer, une élève de 17 ans qui fréquente une école du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le CECCE, a essuyé un refus de la direction de l'école pour un animal d'assistance. Il s'agit d'un chien de race Labradoodle, nommé Hero. Le chien de service appuie quotidiennement Cassandra, tant au niveau mental qu'émotionnel, lorsqu'elle perd le contact avec la réalité en raison de son anxiété. La demande pour un animal d'assistance a été faite en décembre dernier. Dans une lettre adressée, datée plutôt du 9 février, Le CECCE, donc le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, a exprimé son refus, proposant plutôt une discussion avec la direction de l'école. Avant d'accepter une telle demande, il faut regarder tous les critères, a souligné Jason Dupuis, surintendant de l'éducation au Conseil au Conseil des écoles catholiques, donc le CECCE. Il faut aussi regarder les services déjà disponibles à l'école. Nous regardons d'abord ce qui a été fait avant et ce qui pourrait être fait au lieu d'avoir un animal de compagnie. Il faut comprendre qu'on est responsable de la sécurité et du bien-être de tous les élèves et non seulement l'élève qui fait une demande. Un des critères concerne notamment l'emploi d'une des écoles de dressage d'animaux d'assistance reconnues par le conseil scolaire. Le chien de Cassandra a pour sa part été entraîné à la maison avec l'appui d'un organisme sans but lucratif. Nous avons cherché plusieurs compagnies, mais plusieurs avaient de longues listes d'attente. « Moi, je ne pouvais plus attendre », raconte Cassandra, ajoutant qu'il y a encore moins d'écoles de dressage pour chiens destinées aux troubles mentaux. Cassandra a reçu un diagnostic de trouble d'anxiété généralisé en 2012, précédé d'un diagnostic de trouble du déficit de l'attention en 2011. Aujourd'hui, la médication l'aide à garder un certain contrôle, mais cela ne suffit pas, souligne-t-elle. « Hero me redonne complètement mon indépendance. Avant lui, je ne pouvais pas sortir seule de la maison. » Je ne voulais pas sortir, je n'avais pas de motivation de sortir, il me motive à sortir, faire des choses ou simplement jouer avec lui, explique Cassandra. C'est d'ailleurs sous l'avis de son psychiatre et son médecin que Cassandra a entrepris d'entraîner un chiot. Elle a obtenu des conseils et de l'entraînement d'un organisme sans but lucratif pour préparer son chien à identifier les signes de crise. De fait, avec son chien, elle peut circuler dans les centres commerciaux, les bibliothèques, les théâtres et autres endroits publics. En Ontario, la loi n'est pas encore claire en ce qui a trait aux chiens d'assistance. Une personne peut d'ailleurs entraîner elle-même son chien pour accomplir certaines des tâches physiques ou intervenir lors d'épisodes mentaux divers. Actuellement, une veste d'identification ainsi que des papiers médicaux sont nécessaires pour admettre un chien dans un lieu autrement interdit. La province se penche présentement sur le projet de loi 80, soit la loi de 2016 sur les chiens d'assistance en Ontario. Le projet de loi adopté en première lecture permettrait automatiquement l'accès des chiens d'assistance aux installations dans une école ou un endroit où le public est habituellement admis. Dans Le Quotidien, un article signé par Laura Lévesque et Annie-Claude Brisson, des caméras dans les toilettes du pavillon Wilbrod-Dufour. Les adolescents du pavillon Wilbrod-Dufour, PWD, d'Alma, étaient surveillés par caméra jusque dans les toilettes. La direction de la polyvalente avait récemment fait installer ces équipements dans les salles de bain des garçons et des filles, confirme la commission scolaire du Lac-Saint-Jean qui a ordonné leur retrait immédiat. Les caméras seront retirées jeudi. Dès qu'on a été mis au courant de la situation, le retrait a été demandé, précise Véronique Leclerc, responsable des communications à la commission scolaire. Les caméras pointaient en direction des lavabos, assure l'organisation. Les gens dans les cubicules n'auraient pas été filmés. Selon ce qu'il a été possible d'apprendre, la direction de la polyvalente voulait surveiller les allées et venues dans les salles de bain pour réduire les actes répréhensibles comme le vandalisme. Des jeunes se sentant illégalement observés ont dénoncé la situation au cours des derniers jours. Légalement, les directions d'école peuvent, dans certains cas, installer des caméras dans les salles de bain, mais elles doivent avoir un motif raisonnable, comme la lutte au trafic de drogue, et ce système de surveillance doit demeurer temporaire. Dans le cas de l'école secondaire d'Alma, les raisons invoquées par la direction n'auraient pas convaincu la commission scolaire. La présence de caméras de surveillance dans les toilettes du pavillon Wilbrod-Dufour a suscité de nombreuses réactions. Le sujet était présent sur toutes les lèvres à la sortie des classes jeudi. Un groupe de jeunes hommes doutait de l'idée qui a coûté des milliers de dollars à l'établissement scolaire. Pour eux, il s'agit d'une mesure inutile. Ils font cela pour éviter du vandalisme. Pourtant, ce n'est pas pire ici qu'ailleurs. Les jeunes vont toujours flâner, soutient l'un des trois adolescents. La mesure semble déplaire encore plus aux jeunes filles. Selon elle, cela va vraiment trop loin. On a le droit de se regarder, de s'arranger, sans se sentir surveillé. C'est notre intimité. On ne fait rien de grave, témoigne l'une des trois jeunes qui évolue dans un programme avec une concentration. Une mère d'étudiants fréquentant l'école secondaire d'Alma s'est confiée au quotidien. « Je les comprends d'ajouter de la surveillance entre leurs murs alors qu'il y a du vandalisme. Toutefois, ils doivent être vigilants avec l'emplacement des caméras », mentionne celle qui avait été avisée de la mesure par son garçon. À la sortie des classes, une mère se questionnait quant à une telle initiative. Selon elle, il s'agit d'un grave manque de jugement. Celle dont la fille étudie au pavillon Wilbrod-Dufour se demande d'ailleurs pourquoi la commission scolaire du Lac-Saint-Jean n'était pas encore au courant. Dans le soleil, Yann Bussière, un cadeau pour les sinistrés des inondations du 13 janvier. Par solidarité envers les sinistrés des inondations du 13 janvier dans Duberger-les-Saules, la Ville de Québec a accepté de les dispenser de défrayer les coûts des permis ou certificats des travaux de rénovation à réaliser. Ainsi, la Ville de Québec adoptera un règlement modifiant le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme. Dans une perspective de résilience, de soutien et d'accompagnement auprès des citoyens, la Ville a décidé d'y ajouter un pouvoir d'ordonnance donné au comité exécutif en cas de sinistre. Le Conseil peut réglementer en cette matière en vertu de l'article 84 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec. Dans la tribune, Claude Plante, l'Estrie a encore une fois eu la main chanceuse à un tirage de Loto-Québec. Cette fois, la Saint-Valentin a été payante pour un ou des gagnants détenteurs d'un billet du Loto 649 acheté dans la région de Magog. La Société d'État confirme que le billet du tirage du 14 février, bon pour le gros lot de 7 millions de dollars, provient de la région magogoise. Les chances que le ou les gagnants demeurent dans le secteur sont grandes, assure Patrice Lavoie, directeur corporatif des affaires publiques chez Loto-Québec. Le ou les gagnants ne se sont pas encore manifestés, dit-il à la tribune. Nous lançons un appel pour qu'ils se manifestent. Loto-Québec ne sait pas encore dans quel point de vente le billet gagnant Cupidon a été acheté. Et pour terminer sur cette nouvelle, en juin dernier, un gros lot de 55 millions a été gagné dans la région. Par la suite, un montant d'un million de dollars avait été remporté. Les deux gagnants provenaient du Provigo, de l'arrondissement de Lennoxville à Sherbrooke. 1% des lots avaient été remis aux détaillants. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous invite à rester avec nous, puisque dans un petit moment, ce seront les actualités culturelles et aussi le segment Sujet libre. À tout de suite.